Bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un chercheur français détenu en Iran depuis 3 mois. Roland Marshall a été arrêté par les gardiens de la Révolution. Sa détention pèse sur les relations entre la France et l'Iran. Explication dans un instant. La résistance des Kurdes dans le nord de la Syrie, alors que des militaires russes jouent les forces tampons entre les Turcs et les troupes de Bachar el-Assad. Nous serons sur place et avec des réfugiés syriens en Turquie qui ont peur de rentrer au pays. Le malaise des profs, la violence scolaire, la question du voile, autant de sujets nombreux à évoquer ce matin avec votre invité dans 20 minutes.
Nicolas. Oui, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal aussi, les conducteurs non assurés dans le viseur de la sécurité routière, ils peuvent dès maintenant être confondus par les radars. Le livre de Ronald Faro, par qui le scandale Weinstein est arrivé, il met en cause Donald Trump. Et puis des taxis volants dans le ciel français, ce ne sera peut-être bientôt plus de la science-fiction.
France Inter.
C'est une information qui était restée secrète jusqu'à présent. Elle nous emmène en Iran, où un deuxième chercheur français est donc détenu depuis l'été, arrêté en même temps que sa collègue franco-iranienne Farida Abdelka, directrice de recherche à Sciences Po. Lui travaille pour l'Institut d'études politiques. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Florence.
Cet homme s'appelle Roland Marshall.
Ouais, en fait, dès juillet, quand nous avons appris l'arrestation de Farida Abdelka en Iran, nous avons su qu'un second chercheur était également en prison, son compagnon Roland Marshall, donc arrêté au même moment début juin lors de son arrivée à l'aéroport de Téhéran. Il venait rendre visite à Farida Abdelka qui vivait et travaillait alors en Iran. Les deux chercheurs qui sont membres du CERI Sciences Po ont été arrêtés selon Téhéran pour atteinte à la sécurité nationale, un motif que récusent tous les proches du couple. Voilà donc plus de 4 mois qu'ils sont emprisonnés dans la célèbre prison Devin à Téhéran dans des conditions difficiles qui se serait toutefois récemment amélioré depuis la visite d'un avocat.
Et si la France n'en a pas parlé jusque-là, c'est que l'affaire est très sensible. Elle n'aurait pas dû être éventée pour des raisons de sécurité.
Oui, la détention de Farida Abdelka avait été révélée par Téhéran et c'est pour cette raison que la France avait décidé de la confirmer en juillet. En revanche, l'arrestation de Roland Marshall n'avait pas été divulguée. Le Quai d'Orsay avait donc demandé aux chercheurs informés de ne pas rendre publique l'information pour ne pas compliquer les négociations en cours. Il y avait toutefois un débat entre chercheurs sur la confidentialité de l'information. Nous avions décidé nous-mêmes de garder le silence. Un silence aujourd'hui rompu par un média. Nous avons donc fait le choix de donner plus de détails en accord avec des proches des chercheurs.
Et ce qu'il faut dire pour éclairer le contexte, Franck, c'est que cette détention, elle pèse dans les relations entre la France et l'Iran depuis le mois de juin.
Oui, l'affaire a été au cœur des discussions entre la France et l'Iran ces derniers mois. Roland Marshall est un chercheur très réputé. Il est sociologue, spécialiste des guerres civiles en Afrique subsaharienne. Il a été plusieurs fois invité d'ailleurs sur France Inter à ce sujet. Pour les chercheurs qui les connaissent, notamment Jean-François Bayard, ex-directeur du CERI Sciences Po, Roland Marshall et Farida Abdelka sont des prisonniers scientifiques. Ils appellent à leur libération immédiate. D'autres dossiers sont sans doute liés à cette affaire. On a par exemple appris cette semaine l'arrestation d'un opposant iranien exilé à Paris, Rouhollah Zam, qui aurait été protégé par la France. Il est possible que les autorités françaises aient favorisé son arrestation pour débloquer l'affaire de la détention des deux Français en Iran.
Franck Madvon de la rédaction internationale, merci. Je vous propose de rester dans la région où la pression se fait un peu plus forte contre la Turquie et son offensive en Syrie, avec les États-Unis d'un côté qui dépêchent le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État Pompeo à Ankara. Mike Pence a rendez-vous avec le président turc demain. Et la Russie de l'autre qui veut protéger son allié syrien et qui met en garde contre des combats directs entre les militaires turcs et les troupes de Bachar el-Assad en déployant ses propres soldats dans certains secteurs. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Florence.
Vous suivez Aurélien la situation depuis Dohuk à la frontière irakienne. Et ce qui frappe ce matin, c'est la résistance des Kurdes, Aurélien, dans la ville frontalière et stratégique de Ras al-Ayn.
Oui Florence, Ras al-Ayn en arabe, c'est Serekaniye en kurde, que les forces pro-turques ne parviennent pas à prendre depuis une semaine. Les Kurdes qui s'étaient préparés à cette offensive y ont établi des défenses solides et efficaces jusqu'à présent, des réseaux de tranchées, de tunnels leur permettant de se protéger des bombardements et même de contre-attaquer, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises ces derniers jours en prenant à revers les forces pro-turques sur certaines positions. Ils ont des réserves en munitions et leur approvisionnement ou l'arrivée de renforts qui passaient par le sud est moins menacé menacée aujourd'hui depuis le déploiement de l'armée syrienne. L'armée syrienne qui est en position aussi plus à l'ouest à Ain Issa pour contrer l'avancée des forces pro-turques qui ont pris là un secteur frontalier et qui tentent maintenant de s'enfoncer dans le Kurdistan syrien. Armée syrienne en position encore plus à l'ouest aussi à Manbij, à 30 km de la frontière avec la Turquie, où les combats se poursuivent. Deux soldats turcs ont été tués par des obus tirés depuis cette zone, selon Ankara, pour éviter un face-à-face maintenant entre armée syrienne et turque. Vous le disiez, la Russie, qui soutient le régime de Bachar al-Assad, mais qui doit aussi ménager la Turquie, a indiqué hier qu'elle déployait des patrouilles de sa police militaire dans ce secteur, le long de la ligne de contact entre les deux forces.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Inter avec Benjamin Chauvin. On apprend que Vladimir Poutine vient d'inviter Recep Tayyip Erdogan en Russie dans les tout prochains jours. Et face à la pression internationale, le président turc, pour l'instant, ne faiblit pas. Je ne déclarerai jamais de cesser le feu tant que les objectifs de la Turquie ne seront pas atteints, dit-il. Et quels sont-ils, ces objectifs? D'abord, la lutte contre les milices kurdes, qu'il considère comme des terroristes trop proches de sa frontière. Ensuite, la réinstallation de centaines de milliers de Syriens réfugiés en Turquie dans cette zone. Mais sont-ils prêts, ces réfugiés, à revenir? C'est un reportage côté turc, signé Mathieu Mondoloni.
Dans la ville d'Urfa, le quartier syrien s'étend sur une grande rue pleine de restaurants. Dans l'un d'eux, Omar s'active derrière les fourneaux. L'idée de rentrer en Syrie, il n'est pas contre, mais uniquement s'il a des garanties. Avant tout, il faut que nous ayons la certitude que ce soit réellement une zone de sécurité, nous explique-t-il. Nous sommes partis de Syrie parce qu'il y avait des armes dans les mains des jeunes, comme des vieux. Il y avait des groupes armés de tous les côtés, l'État islamique, le PKK, l'armée syrienne libre. Je ne rentrerai que si on m'assure que je serai protégé. Dans la boulangerie voisine, Mohamed prépare des manaïch, des pizzas syriennes. Il a fui la ville de Raqqa et ses violents combats quand il avait 14 ans. Il en a 19 aujourd'hui et garde une certaine nostalgie du pays.
Inch'Allah, j'espère qu'on pourra rentrer un jour, mais je ne sais pas quand. Ici, je suis un étranger, je préférerais être chez moi. En plus, la police nous arrête tout le temps, elle nous demande notre carte d'identité. Elle fouille notre téléphone. En Syrie, nous n'avions pas ça.
Il ne croit pas pour autant à la possibilité de rentrer, surtout depuis que l'armée de Bachar el-Assad s'est déployé de l'autre côté de la frontière.
Je préfère encore que la Turquie contrôle la zone, parce que les Kurdes ou l'armée du régime, c'est la même chose. Donc si nous allons là-bas, soit ils vont nous obliger à rejoindre leurs troupes, soit ils vont nous interroger, nous jeter en prison, ou peut-être même nous tuer.
Sur la devanture, le nom de la boulangerie n'est pas écrit en arabe, mais en turc. Un conseil qu'on lui a donné, dit Abdul Fattah, car quand on est réfugié syrien en ce moment en Turquie, il vaut mieux se montrer discret.
Reportage signé Mathieu Mondoloni.
Il est 8h09, Florence. Jusqu'ici, il traquait la vitesse sous les feux rouges grillés.
Les radars vont dorénavant contrôler l'assurance des automobilistes flashés en allant vérifier dans le nouveau fichier des véhicules assurés. Dans les 3 mois qui viennent, les contrevenants qui ne sont pas à jour seront invités à régulariser leur situation. Ensuite, les amendes seront salées, explique Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.
Dans un premier temps, nous allons envoyer des courriers de prévention en demandant aux personnes de s'assurer. Et donc, on va d'abord essayer de favoriser la réassurance ou l'assurance spontanée après avertissement. Et puis, dans quelques mois seulement, si on n'est pas assuré et qu'on a été flashé, on recevra en effet une amende forfaitaire délictuelle, 750 euros. Rouler non assuré, c'est d'abord courir un risque extrêmement grave de bousiller sa vie, hein, j'emploie pas d'autres mots. Et des personnes à qui c'est arrivé se sont retrouvées toute leur vie à devoir payer pour cette dette qu'ils se sont créés eux-mêmes.
Et dans 5% des accidents mortels, un des véhicules n'était pas assuré l'an passé. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, répondait à Sandrine Etoa-Andeg. En France, presque tous les députés ont voté pour la mise en place du bracelet anti-rapprochement pour les conjoints violents. Proposition de loi d'un député Les Républicains que le gouvernement veut mettre en place depuis début 2020. Ce dispositif de géolocalisation et de mise à distance a fait ses preuves en Espagne depuis 10 ans. Quand un officier des pompiers de Creil imite un élu du Rassemblement National et refuse une visite de sa caserne à un groupe d'élèves accompagné par 2 maires voilés. Ça s'est passé lundi, visite annulée. De quoi ajouter au débat relancé par l'épisode du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes vendredi dernier. Son regard est aussi doux que ses révélations sont dures. Ronan Farrow, prix Pulitzer pour son enquête sur l'affaire Weinstein. C'est lui qui est à l'origine de ce qui va devenir le mouvement MeToo. Sort un livre aujourd'hui qui fait déjà l'effet d'une bombe aux États-Unis. Bonjour Elana Moriousev.
Bonjour.
Vous l'avez lu, ce livre, dans lequel Ronan Farrow raconte d'abord les incroyables pressions dont il a fait l'objet.
Oui, des pressions, il en a subi, et en premier lieu de son employeur de l'époque, la chaîne de télévision NBC. Et à cet égard, le livre est un véritable réquisitoire. Sa rédaction en chef estime d'abord, malgré toutes les preuves qu'il apporte, que son enquête n'est pas assez étayée. Puis, ce sont les arguties du service juridique. Et enfin, interdiction pure et simple de poursuivre son reportage. Et enfin, le non-renouvellement de son contrat. C'est dire le pouvoir d'influence et d'intimidation de Weinstein. Mais le plus surprenant dans cette affaire reste le rôle d'une officine de renseignement privé dont Harvey Weinstein s'offre les services. Fondée par d'anciens agents du Mossad, Black Cube ne s'embarrasse pas de l'égalité. Filature, message, interception de mail et même infiltration d'une agente qui réussit à devenir la confidente de l'actrice Rose McGowan, la première à avoir accepté de témoigner. La puissance des moyens déployés pour étouffer le scandale laisse pantois.
Et ce qui stupéfie dans ce livre et aux États-Unis, Ilana, c'est ce que Ronan Farrow dit sur Donald Trump.
Oui, a priori, on se dit, mais quel lien entre les deux affaires? Eh bien, c'est un groupe de presse américain qui possède plusieurs tabloïdes. Au moment de l'affaire Weinstein, c'est ce groupe qui s'est efforcé de discréditer les femmes qui accusaient le producteur. Et avec Trump, ils ont mis en œuvre la stratégie de la presse de caniveau, Catch and Kill, c'est le titre américain du livre, attraper et tuer, autrement dit, acheter un scoop pour mieux l'enterrer, acheter le silence des femmes qui ont eu des liaisons avec le futur président, et même, selon Farrow, le silence d'une femme de ménage avec qui il aurait eu un enfant dans les années 80, invérifiable à ce jour.
Ilana Moriousev, merci. Personne ne s'avancera sur les négociations en cours à Bruxelles. Permettront-elles d'aboutir à un accord sur le Brexit dans les heures qui viennent? C'est possible, selon le négociateur européen Michel Barnier, qui n'en dit pas plus. À la veille d'un nouveau sommet des chefs d'État, ces négociations qui ont duré une partie de la nuit vont reprendre ce matin. À Barcelone, ce sont des scènes de guérilla urbaine qui ont eu lieu dans la soirée hier. Le centre-ville jonché de conteneurs en feu et de barricades montés par des militants indépendantistes qui manifestait pour la deuxième journée consécutive après les condamnations de leaders séparatistes. À Madrid, le gouvernement de Pedro Sanchez dénonce une violence qui s'attaque à la coexistence en Catalogne. Et puis, deux autres informations qui concernent l'Europe. Le début de cette histoire incroyable aux Pays-Bas, où la police a découvert une famille recluse dans une cave, dans la cave d'une ferme depuis 9 ans. Un père et ses 5 grands-enfants qui attendaient la fin des temps. Aucun contact avec le monde extérieur. Certains n'auraient jamais été déclarés à l'état civil. Une enquête est ouverte. Enfin, on sera cet après-midi, c'est la justice italienne autorise la venue d'un certain nombre d'œuvres de Léonard de Vinci pour la grande exposition du Louvre la semaine prochaine. L'homme de Vitruve en fait partie. On parlait des assurances tout à l'heure, les assurances des conducteurs. Là, il va y avoir gros besoin d'assurance si un jour des taxis volants volent au-dessus de nos villes. Ça n'est plus tout à fait improbable. Plusieurs entreprises françaises travaillent sur la conception de petits aéronefs qui pourraient bientôt faire leur apparition au-dessus des agglomérations. Le transport de demain, ce sera l'une des thématiques du Festival des Nouvelles Explorations qui commence aujourd'hui à Royan, en Charente-Maritime, Yann Gallic.
La voiture volante peuplait déjà l'imaginaire de Jules Verne au début du XXe siècle, un vieux rêve véhiculé depuis par de nombreux films de science-fiction. Ce fantasme deviendra bientôt réalité. Charles D'Alberto est le cofondateur d'une start-up qui a mis au point un taxi volant 100% électrique, à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère.
L'enjeu, c'est de pouvoir effectivement rajouter une nouvelle solution de transport dans nos espaces encombrés et pollués. On pense se poser sur des toits de gare, par exemple, en fait, sur des gares routières, des gares ferroviaires, même si on s'approche plus du métro aérien que d'un taxi qui peut effectivement se déplacer devant votre porte.
Ces engins volants pourraient circuler dans nos villes dès 2022, mais avant, il faudra encore faire évoluer la réglementation aérienne.
On va négocier effectivement les lignes aériennes, les corridors, où on pourra voler avec les autorités compétentes. On n'est pas dans la science-fiction, en fait. C'est assez rapidement que ces engins seront dans notre ciel, dans la mesure où ils seront pilotés. Et ça, c'est une limitation que nous a imposée l'Europe pour l'instant. Ils ne veulent pas, pour l'instant, réglementer les vols autonomes, à court terme, vous aurez forcément un pilote qui sera aux commandes de l'engin.
Le futur marché des voitures volantes attire les start-up, mais aussi les constructeurs automobiles ou les géants de l'aéronautique. Airbus espère d'ailleurs mettre en service son premier taxi volant autonome en 2024, lors des Jeux Olympiques de Paris.
Voilà de quoi vous faire rêver, vous qui nous écoutez peut-être dans les embouteillages.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Marie-Pierre, une nouvelle perturbation est arrivée par le nord-ouest.
Oui, qui va stagner ce matin et arroser toute la matinée les régions comprises entre la Bretagne, au Pays de la Loire, au centre, à l'Île-de-France, en remontant vers les Hauts-de-France, les Ardennes et la Lorraine. En revanche, le temps est calme avec un ciel voilé de l'Aquitaine en remontant vers l'Alsace et le soleil est de retour en Méditerranée, ainsi que sur la moitié est où les températures sont bien fraîches ce matin. Au plus bas, il fait 2 degrés en Haute-Loire, 5 à Uzès, dans le Gard, comme à Ambérieux, 6 à Mont-de-Marsan, alors que vous vous réveillez avec des valeurs plus douces sous la pluie, 16 à Cherbourg, 15 à Saint-Brieuc, 11 à Lille et 13 à Paris.
Et les pluies se déplacent légèrement dans l'après-midi.
Et oui, pour gagner le nord de la Gironde et s'imiter aux Ardennes sur le nord, ailleurs, au sud, une ligne, on va dire, qui relierait le bassin d'Arcachon aux frontières du Luxembourg. Vous passerez un après-midi soit sous un ciel un petit peu voilé, soit sous le soleil, comme en Méditerranée, où le vent soufflera assez fort près des côtes varoises et des Caps Corses. Vent également soutenu près de l'océan et des côtes de la Manche. Et le mercure qui va remonter un peu, comptez 22 à Bordeaux, 20 à Clermont-Ferrand, à Nevers, Montpellier et Lyon, 21 à Nice et Perpignan. Et sur la moitié nord, on attend entre 14 à Lorient, 15 à Paris, 17 à Nantes, 19 à Strasbourg. Et le maximum est attendu à Bastia, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées ou dans le Gers, à Mirande, avec 23 degrés.
Marie-Pierre Planchon, merci.